Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute.
Bonjour Jean-Pierre Gou.
Bonjour Julien Vidal.
Oui, c'est vrai que je dis toujours le nom de famille, mais ça aide les gens à situer ceux qui nous écoutent. On est, nous, en 2030 glorieuse. En tout cas, je te reçois dans ce podcast 2030 glorieuse qui me tient vraiment à cœur et dans lequel je rencontre ceux et celles qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous allons aborder des thèmes comme l'importance des nouveaux récits, de l'écologie intérieure, de l'exploration spatiale éthique, pourquoi pas. Et puis, je tenais à le dire quand même, en lancement, toi tu utilises souvent un mot qui synchronicité, je le vois notamment beaucoup sur tes réseaux sociaux et cette synchronicité là, tu vois, ça faisait longtemps moi, que j'avais envie de t'inviter à un de mes podcasts et en fait c'est toi qui as réagi sur l'Institut des Futurs Souhaitables alors même que cette semaine j'avais planifié de t'écrire. Bref, la boucle est bouclée, on se retrouve ensemble, tu vas nous raconter tous tes projets en cours, Jean-Pierre, ça va être 45 minutes vraiment passionnant. Mais avant ça, j'aimerais rentrer avec toi par la porte métier et j'aimerais que tu nous dises comment tu te présentes quand tu rencontres de nouvelles personnes. Je dis ça parce que tu as plusieurs casquettes. Hein. Tu es cofondateur du projet Blue Turn, tu es président de l'Institut des Futurs Souhaitables, tu es l'écrivain du roman Siècle Bleu et plus récemment le fondateur de One Home. Mais concrètement, c'est quoi ton métier, Jean-Pierre ?
Alors, avant, j'avais un vrai métier. J'étais aussi directeur général d'une entreprise dans le domaine de l'énergie et de l'environnement que j'ai quitté fin décembre pour me consacrer à plein sur mes activités plus écologiques et engagées que tu as citées. Mais avant, mon métier, c'était vraiment expert dans l'énergie.
Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je dirais acteur de la transition par des biais qui sont le récit, les expériences et peut-être d'autres choses. Là, il y a des, j'en parlerai peut-être, mais des projets qui sont en train d'émerger plus audiovisuels pour faire passer des messages autrement et essayer de faire bouger les lignes. Donc, je dirais acteur de la transition avec plusieurs casquettes, comme beaucoup d'entre nous.
Et donc, tu présentes les activités que j'ai mentionnées comme des hobbies. Hein,
des hobbies. C'était des passions et puis surtout des passions engagées, ouais, avec une volonté de faire bouger les cœurs et les mentalités avec ces projets. Là, aujourd'hui, on va dire, pour moi, ce sont plus des outils qui servent un même but, qui est d'arriver à faire émerger ces 2030 glorieuses, justement, de faire que dans les 10 prochaines années qui sont vraiment cruciales pour l'humanité, on arrive à faire cette bascule, et c'est une bascule qui doit avoir lieu à tous les niveaux, au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau de l'imaginaire, et j'essaye d'avoir une batterie de projets qui permet d'agir sur ces différentes choses, et c'est des projets que je fais en collaboration pour certains avec des amis ou d'autres personnes. Donc c'est un écosystème de projets qui servent à, comme beaucoup d'autres, à faire émerger ces futurs souhaitables.
Et c'est quoi le fil rouge de toutes ces expériences, Jean-Pierre ? On parle d'écologie, d'utopie. Souvent, tu es dans des démarches qui sont prospectivistes. Ou est-ce que c'est plus profond, plus, je ne sais pas, global, sur la notion peut-être d'espoir ? Tu dirais quoi, toi ?
Au départ, je dirais que, en ce qui me concerne, il y a une forme d'inquiétude que j'avais il y a une vingtaine d'années sur le futur. À force de lire, il y a déjà 20 ans, l'état des lieux de la planète et l'état des lieux de ce qui pourrait arriver si on changeait rien, c'est des choses qui m'ont fait extrêmement peur. et je ne voyais rien autour de moi qui était de nature à me rassurer, quoi. Dans les essais, il y avait des bribes sur l'agriculture, des bribes sur l'énergie, des bribes sur l'éducation, mais ça restait, on va dire, des choses un peu théoriques ou avec des retours d'expérience qui étaient locaux, et je voyais pas de choses qui arrivaient de manière un peu synthétique ou globale nous montrer comment ce monde pouvait être mis en marche. Et au départ, donc pour combler mon angoisse, j'avais commencé à écrire un essai qui reprenait en fait ces différents champs de transition pour essayer de les mettre ensemble et de voir qu'est-ce que pourrait être cette transition et le monde vers lequel on arriverait. Et puis, je me suis aperçu qu'il manquait des personnages, c'est-à-dire les acteurs de cette transition, les gens qui vont porter ces sujets-là. Et au départ, c'est vraiment le roman qui a émergé. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé lire et je trouvais que entre un essai qui te marque et un roman qui te marque, la rémanence en fait d'un roman, elle est plus forte parce qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension, on va dire, d'identification au personnage, et puis il y a une dimension d'émotion aussi qui est véhiculée, certaines scènes très fortes qui te restent vraiment profondément ancrées. Et donc, j'ai choisi la voie du roman, et c'est comme ça que je me suis mis à écrire « Siècle bleu », pour raconter ce que j'aurais voulu voir émerger et d'agir comme ça sur, on va dire, la fiction en mettant en place, enfin, en développant une utopie réaliste. J'insiste sur le mot réaliste, hein. Il y a des gens qui mettent pas d'adjectif après utopie, mais il y a beaucoup de gens qui considèrent que les utopies sont des choses qui sont improbables ou irréalisables. C'est Théodore Monod qui disait que les utopies, c'est plutôt ce qui est irréalisé que ce qui est irréalisable. Et dans ce qui est irréalisé, c'est parfaitement réalisable. Et Siècle bleu, donc c'est une utopie, mais qui prend racine dans le monde d'aujourd'hui avec toute sa complexité géopolitique, géostratégique. Donc en toile de fond, c'est la lutte entre les États-Unis et la Chine pour le contrôle des matières premières, mais aussi ancré dans la réalité de ce qu'on appelle le PFH, le putain de facteur humain, dans ce qu'il y a de merveilleux, mais aussi de délicat. Et je pense qu'on a tous en nous une part d'ombre et de lumière. D'ailleurs, le deuxième tome de Siècle bleu s'appelle Ombre et lumière. Et je voulais mettre une utopie ancrée dans la réalité pour que quand les gens la lisent, ils se disent c'est peut-être possible ce qui se passe là. Et pour répondre à ta question, le point de départ, c'est une inquiétude et la volonté de jouer sur les imaginaires, de me convaincre moi-même qu'il y a un chemin possible entre aujourd'hui et ces futurs glorieux ou souhaitables. Et si ça marche pour moi, je me dis ça peut peut-être marcher dans le cerveau des lecteurs.
Et c'est fou, hein, parce que Siècle bleu, tu l'as écrit en 2010. Et j'ai l'impression qu'en fait, tu as écrit ton plan de carrière ou ton plan de vie même, parce que depuis 10 ans, tu t'évertues à concrétiser tout ce que tu mettais dans Siècle bleu.
Alors, c'est un livre que j'ai mûri. J'ai commencé à l'écrire à la fin des années 90, mais j'ai vraiment commencé au début des années 2000. Mais
ah oui.
Ce roman, je l'ai maturé pendant longtemps. Et effectivement, au départ, j'ai plutôt mis tous les thèmes qui m'intéressaient. Parce que moi je m'intéresse à l'espace, je m'intéresse à la musique, je m'intéresse à la spiritualité, je m'intéresse au chamanisme, je m'intéresse à la géopolitique, aux ressources, et donc il y a des personnages un peu dans tous ces domaines-là, et puis il me semblait que c'était des thèmes à aborder ensemble pour faire une réalité. Et donc j'ai créé ma ratatouille, je suis d'origine niçoise, c'est peut-être pour ça, avec les ingrédients que j'aime, avec l'idée que ça serait suffisamment digeste pour que ça intéresse d'autres personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça m'a permis de rencontrer des gens dans ces différents domaines que j'ai cités, souvent des gens que j'admirais, et notamment beaucoup d'acteurs du changement que j'admirais, qui ont les mêmes valeurs que les héros du livre, qui se battent pour faire advenir ça et qui déclenchent les réactions du système et qui ont beaucoup de difficultés à le faire advenir. Et donc, petit à petit, je me suis retrouvé un peu dans la peau de ces personnages différents du livre. Alors, soit à les rencontrer ceux qui avaient inspiré ces personnages, soit à moi-même rentrer un peu dans la peau de ces personnages. Donc c'est et le lien aujourd'hui entre fiction et réalité, il devient de plus en plus ténu, et j'ai un peu l'impression de vivre dans l'univers de mon roman, quoi. Ça c'est vrai.
Parce que effectivement, sans révéler toute l'intrigue des bouquins que j'avais dévorés il y a quelques années, et puis en fait que j'ai transmis à mon frère, qui est un lecteur passionné, notamment de science-fiction, mais pas du tout, enfin vraiment, il était loin à l'époque d'être sensibilisé aux questions écologiques et ça nous a beaucoup rapprochés. En tout cas, ça nous a permis de créer pas mal de conversations autour de ton livre et pour ça, je t'en remercie. Mais donc, du coup, tu fais vivre après ton livre l'expérience de l'overview effect à travers le projet Blue Turn. Hein. Tu aides les gens à tomber amoureux de la planète et puis aujourd'hui, tout prend une nouvelle ampleur avec le projet One Home qui refait vivre cette expérience de l'overview effect et qui en plus essaye de créer un sentiment d'appartenance, de faire en sorte qu'on se rende compte du lien invisible qu'il y a entre tous les êtres humains.
Oui, je vais expliquer ça, mais peut-être juste un tout petit mot sur l'intrigue quand même pour vous montrer où je rêverais d'aller. Dans le roman, il y a deux personnages principaux. Un personnage qui est d'origine mexicaine, qui s'appelle Abel, qui est un éco-activiste et qui a créé une ONG qui est clandestine et qui fait un peu comme si Shepard, mais comme ils sont clandestins, les gens savent jamais où ils vont frapper, donc ils menacent un peu tout le monde. C'est des techniques de guerre un peu asymétriques, des techniques de guérilla. Et lui ennuie les États et il ennuie la Chine et les États-Unis. Et à un moment, il y a un clash entre la Chine et les États-Unis lié à un problème qui se passe sur la Lune, lié au premier convoi d'Américains qui reviennent sur la Lune. Et vous savez que Trump a annoncé que d'ici 4 ans, là, les Américains retourneraient sur la Lune. Bah, c'est exactement le point de départ de Siècle Bleu, sauf qu'ils y arrivent. Et il y a un problème sur la Lune. Et les États-Unis, pour pas rentrer dans une guerre nucléaire contre la Chine, accusent Gaïa, qui est ce groupe activiste, de ce crime que Gaïa n'a pas commis. Donc le héros de Gaïa, Abel, part à la recherche de ce secret d'État et il déclenche une révolution au fur et à mesure que ce secret commence à être révélé. Ce qui fait que cette révolution ne devient pas une révolution violente, c'est la présence d'un autre personnage dans le roman qui s'appelle Paul Garner, qui est un astronaute qui est bloqué sur la Lune et qui regarde la Terre en rêvant et qui est complètement transformé par cette beauté de la Terre. Et ça, c'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué il y a une vingtaine d'années, c'est que les astronautes, en voyant la Terre depuis l'espace, ils comprenaient quelque chose que nous, humains, on avait du mal à comprendre en marchant dessus, en ne la voyant pas. C'est qu'en la voyant dans sa totalité ou en partie, ils voyaient à la fois sa beauté incroyable, ils voyaient que c'était un système vivant interconnecté, et ils voyaient aussi que ce monde était fini, c'est-à-dire que quand vous voyez la Terre en entier vue depuis l'espace, vous pouvez pas nier qu'il y a des limites planétaires. La Terre a des capacités. Ces capacités, elles peuvent être excédées et aujourd'hui, on les excède. Et la Terre a une énorme capacité d'amour et de production multiple pour tous les êtres vivants qui sont dessus et l'humanité l'excède. Et ces astronautes, en voyant ça et en étant vraiment tombés amoureux de cette Terre, ils ont eu un shift de conscience qu'on appelle l'overview effect. Et donc, effectivement, avec ce projet One Home, j'essaye, en fait, avec un ami, là, Kim Unkyu, et un autre ami, Michael Bokara, et puis d'autres personnes qui sont dans l'équipe, de proposer une expérience qui montre la Terre depuis l'espace avec des images uniques de la NASA et en utilisant l'art, en utilisant le design, de vraiment créer des vidéos qui soient très émouvantes pour faire que les gens tombent amoureux de la Terre comme les astronautes. Et donc One Home, qui veut dire notre maison commune, vous avez le site web, c'est onehome.org, et sur ce site, bah, vous pouvez trouver justement les dernières vidéos de la Terre. Sur nos réseaux sociaux, si vous abonnez, vous pouvez aussi recevoir ces dernières images de la Terre et vous pouvez être émerveillé par cette beauté. Et on propose une expérience de contemplation qui est celle que les astronautes ont. Et eux sont complètement, on va dire, addicts à la beauté de la Terre. La plupart des astronautes vous disent que dès qu'ils ont 5 minutes de libre entre deux expériences ou entre deux entraînements ou deux communications, ils en profitent toujours pour aller au hublot, regarder cette vue extraordinaire qu'ils ont. Et voilà, ils sont que 500 à avoir vécu ça, à avoir eu dans leur esprit ce que j'appelle des graines de conscience planétaire. Et c'est des choses qui nous aideraient déjà à habiter différemment notre monde, et ça, je pense que c'est vraiment une des clés, et vivre en étant dans un constant émerveillement de la chance que l'on a de vivre ici. Et ça, c'est quelque chose aussi que l'on oublie. Dès qu'on se lève le matin, on est dans nos petits soucis, un certain nombre de contraintes qui sont légitimes, mais on oublie de s'émerveiller à quel point c'est extraordinaire de vivre dans une planète au milieu du cosmos, avec une petite atmosphère sur laquelle on a une température tempérée, une diversité de couleurs, d'êtres et d'expériences de vie absolument phénoménales. Et on ne se réjouit plus de ça et on oublie cette terre-mère qui est la mère de tous et la maison commune de tous, avec des fluides mis en commun pour tous, que ce soit l'eau, le sol ou l'air. Et comme on oublie de se rappeler de ce lien qui nous unit tous, et ben derrière, tout notre comportement déroule. Et mon intuition, c'est que par les émotions, il y a moyen de faire comprendre des choses qui, derrière, après, rendent beaucoup plus facile, on va dire, l'écriture de certaines lois, la transformation de certains systèmes, le renoncement à certains types de consommation, la transformation vers d'autres types de consommation ou d'usage, parce que aujourd'hui, on est hors sol, en fait, quoi. Et l'objet de ce projet One Home, c'est de proposer une expérience artistique et profonde et émotionnelle pour faire bouger les cœurs et nous mettre à l'unisson avec la Terre et les autres êtres vivants sur cette Terre.
Ouais, tu l'as dit, hein, ce projet One Home, ça passe par le beau, ça passe par la créativité, par l'art. Il y a une phrase qui me marque tout particulièrement et je vois que vous l'avez republiée il n'y a pas longtemps, qui est d'un astronaute qui s'appelle Edgar Mitchell, et il dit en français mal traduit: on est parti sur la Lune comme des techniciens et on est revenu comme des humanitaires, pour montrer vraiment à quel point le simple fait de voir cette perle bleue perdu dans l'immensité de l'espace, ça transforme des gens qui pourtant étaient d'une certaine manière formatés à des processus, à des normes, à une rigueur, et pourtant tout ça fond une fois qu'on voit la beauté de la Terre. Et c'est ça, moi, ma dernière question avant qu'on parte en 2030 glorieuse, Jean-Pierre. Pourquoi cette écologie intérieure, elle est si importante? Ce que je veux dire, c'est que tu as passé les 10 dernières années, même plus en fait, quand on se rend compte que tu travailles sur Siècle Bleu depuis les années 90, comme tu le disais, mais tu as passé tout ce temps à œuvrer pour la construction d'une société plus durable. Mais plutôt que de t'attaquer au comment, ce qu'on voit souvent, hein, c'est les énergies renouvelables, c'est la voiture électrique, c'est l'isolation, on parle beaucoup du comment, mais on s'intéresse assez peu au pourquoi. Et toi, c'est exactement ce que tu as fait. Pourquoi, justement?
Alors, déjà parce que, je dirais, sur le comment, c'est ce que je faisais dans mon travail. Moi, je travaille dans les énergies renouvelables et dans l'harmonisation du système européen énergétique. Donc, je dirais que j'avais déjà une contribution concrète par ce biais-là. Mais il me semblait que dans l'écologie, en tout cas telle qu'on l'aborde, le fait de ne pas traiter la question du pourquoi ou la question de qu'est-ce que l'on a en commun, et qu'on soit très vite dans le comment, on part tout de suite sur des choses qui nous divisent. C'est-à-dire, oui, alors la voiture électrique, il y a du plus, il y a du moins, ça, si on le fait, moi, ça me gêne et toi, ça me gêne pas. Et le fait de ne pas faire ce détour qui soit plus poétique, plus inspirant, qui fait que déjà, on respire ensemble, on voit ensemble qu'est-ce qui nous unit, avant de voir les modalités, et ben en fait, c'est toujours plus difficile. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vu dans l'entreprise. Hein. Quand vous avez une entreprise qui a une vision, c'est beaucoup plus simple après de parler du comment, parce que la vision est partagée. Et la vision, elle ne dit pas justement le comment. Le comment, il va, il y a des essais, il y a des erreurs, on va en avant, on va en arrière, mais la vision, elle demeure, quoi. La raison d'être, elle demeure. Et aujourd'hui, la raison d'être de l'humanité, c'est quelque chose qui était, à une époque, on va dire, vaguement traité par les religions. Et en fait, les religions, c'était plus des systèmes de maintien d'ordre social sous couvert de répondre à un certain nombre de questions métaphysiques. Mais il y avait quand même un certain nombre de questionnements qui étaient posés. Aujourd'hui, ces discussions ont un peu disparu de l'espace public. Et au niveau individuel, on a un peu tous laissé pour compte avec nous débrouiller pour survivre ou vivre dans le quotidien. Et ce lien commun qui nous unit, plus personne n'en parle. Et moi, il me semble que ça va être très difficile d'accomplir cette transition si cet espace-là, qui est un espace en fait de grande joie, de grande beauté, qui peut procurer des sensations incroyables à tout le monde, s'il n'est pas habité, derrière, on ne sait pas pourquoi on va avancer, et ça va être très dur après de changer les choses. Et changer, c'est pas très grave, mais dans le changement, parfois, il faut renoncer à quelque chose ou substituer des usages. Donc, ça veut dire parfois des efforts. Et les efforts, on voit bien que c'est beaucoup plus facile de les faire dans la joie. On peut aussi les faire dans la peine quand on est contraint. On a fait beaucoup d'efforts tous pendant cette crise-là du coronavirus. Mais cette grande transition, si on arrivait à la faire là-dedans, il y aurait moins de risques qu'on se perde en route si on partageait un certain nombre de choses, et notamment la vision un peu unificatrice qui est de partager ce système Terre et de devoir le préserver. Pour le préserver, nous, notre pari, c'est que ça ne sert à rien de sauver la Terre. Ce qu'il faut, c'est juste l'aimer, quoi. C'est d'ailleurs notre motto à One Home, c'est d'aimer cette Terre, parce qu'une fois que vous aimez quelque chose, le préserver, ça devient une évidence. Vous avez même pu en parler. C'est évident qu'il y a certains gestes que vous ferez plus parce que vous faites mal à la terre ou que vous excédez ses capacités régénératrices. Et une fois que vous aimez cette personne-là, vous n'allez pas aller au-delà de ça et ça va devenir une sorte de sixième sens. Et il y a peu de gens qui sont sur ce sujet-là. Il y a un certain nombre de philosophes ou de personnes qui réfléchissent à ces questions et qui disent des choses admirables. Mais sur cette vision vraiment globale commune, il y avait un vide et qui peut aussi aider les nations à coopérer au-delà des individus, de leur dire pourquoi est-ce qu'on va au-delà de ça, de se sentir intendant de cette petite planète, habitant et intendant. Et ça, c'est aussi un changement de paradigme.
Avant de voyager, Jean-Pierre, ensemble vers les utopies réalistes, on va partir en 2030 glorieuse ensemble, hein, mais c'est pas tout de suite. Moi, je voulais qu'on termine cette première partie par un cadeau que tu vas nous faire. À chaque fois, je demande à l'invité de nous offrir une parenthèse d'inspiration et je suis comme toi. Je suis un grand lecteur, j'ai toujours adoré lire et je suis persuadé que dans la littérature, il y a tout un tas de fenêtres d'utopies réalistes vers des mondes durables, des mondes respectueux du vivant. Je sais que tu es un fan absolu du Petit Prince que tu collectionnes dans toutes les langues. Moi, j'ai la même maladie, la même folie, mais c'est pour L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Mais aujourd'hui, tu vas pas nous lire ça. Hein. Aujourd'hui, tu vas nous lire un autre roman dans lequel il y a des pistes qui montrent à quoi pourrait ressembler le monde de demain. Et je voulais que tu nous le partages. Allez, c'est à toi, Jean-Pierre.
Quand tu m'as proposé de lire un passage... Bon, j'ai longtemps réfléchi et effectivement, j'aurais bien choisi un passage du Petit Prince, mais je voulais quelque chose qui soit un peu plus peu connu. Donc, c'est un texte de Christian Bobin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un des derniers grands poètes français. Enfin, il écrit de la prose, mais c'est de la poésie en prose. C'est quelqu'un qui a une écriture extrêmement fine et qui a commis un petit livre que personne ne connaît qui s'appelle « Le plâtrier siffleur », qui est très difficile à commander, mais vous pouvez quand même le trouver. Et dans ce plâtrier siffleur qui fait 15 pages, je vais vous lire deux pages qui parlent de la contemplation et de l'importance de la poésie. Est rempli de mille questions qui sont sans impatience d'une réponse. Quand j'écris avec la vision de ce pré, je suis devant le plus grand concurrent qui soit. Je suis devant un maître écrivain, un des plus grands poètes, qui n'a pas de nom, pas de visage, mais qui travaille jour et nuit. Il est possible que, par l'attention aux choses menues, très simples, très pauvres, je trouve peut-être ma place dans ce monde. Il y a quelque chose de la suave tyrannie des techniques qui commence à être défaite dans un instant de contemplation pure qui ne demande rien, qui ne cherche rien, même pas une page d'écriture. La plupart du temps, je regarde, je ne note pas, je n'écris pas. La contemplation est ce qui menace le plus, et de manière très drôle, la technique hyper puissante. Et pour une raison très simple, c'est que les techniques nous facilitent la vie, apparemment. Mais c'est un dogme d'aujourd'hui qu'on ait la vie facilitée. Qui a dit que la vie devait être facile et pratique ? Est-ce qu'aimer ces pratiques ? Est-ce que souffrir ? Est-ce qu'espérer ces pratiques ? La technique nous éloigne de ces choses-là et fait grandir une lèpre d'irréel qui envahit silencieusement le monde. La contemplation, ce qu'on appelle la poésie, c'est le contraire précisément. C'est le contraire même de ce qu'on entend trop souvent par poésie. Ce n'est pas une décoration, ce n'est pas une joliesse, ce n'est pas quelque chose d'esthétique. C'est comme mettre sa main sur la pointe la plus fine du réel.
Mettre sa main sur la pointe la plus fine du réel.
Et je crois vraiment que Christian Bobin, il touche à quelque chose qui est vraiment important, c'est qu'aujourd'hui, par le conditionnement qu'on a, je pense qu'on est branché sur une autre réalité qui est très conditionnée par notre mental, très conditionnée par toutes les forces de conditionnement qu'on a dans la société, et on oublie le réel, quoi. On oublie comment les choses fonctionnent, on oublie la beauté des choses, mais on oublie les choses qui souffrent. Et cette reconnexion à la réalité, c'est-à-dire vraiment à l'essence des choses, si on parvient à y revenir, on sera beaucoup plus conscient de nos choix, de notre impact. Et il y a un vrai enjeu là-dessus. Et ce que lui dit, et moi j'en suis persuadé, et nous on offre des expériences de contemplation, c'est que la contemplation et la poésie sont des moyens de se ramener à cette finesse du réel, à cette perception aiguë des choses, qui fait que derrière, on peut arriver à des choses aiguës et fines, et on a besoin de cette finesse et de développer ces perceptions. Et c'est ce que nous, on essaye de faire avec One Home, et que j'espère que d'autres se lanceront là-dedans. Et je crois que la poésie fait vraiment partie des choses à préserver et à développer si on veut arriver à cet avenir souhaitable, parce que c'est lui qui va nous faire réaliser que ce monde qu'on veut faire advenir dans ces 2030 glorieuses vaut la peine d'être vécu.
Et bien justement, Jean-Pierre, merci pour cette bulle d'inspiration. C'est la première fois qu'on nous lit de la poésie, c'est très très beau. Mais justement, nous y sommes dans un de ces avenirs souhaitables. Nous sommes, ça y est, en 2030 glorieuse. On vient de faire le voyage le plus fantastique et écologique qui existe, puisque nous sommes maintenant en 2030 glorieuse. Hein. Je sais que nous, en France, on n'est pas très entraînés à laisser libre cours à notre imagination, ou en tout cas à laisser de la place à ces utopies réalistes. Mais bon, on va le faire là pendant une vingtaine de minutes ensemble. Toi, tu t'y es entraîné, tu as même écrit deux livres avec ton roman de Siècle Bleu qui ont lieu dans ces utopies réalistes. La première question que je pose toujours, c'est là, tu es en 2030 glorieuse, tu te projettes dans ces utopies réalistes, qu'est-ce que tu vois ?
Alors, la première chose que je vois, c'est plutôt quelque chose que j'entends, c'est beaucoup de silence, quoi. Et beaucoup moins de bruit, et beaucoup de bruit de nature, et c'est vraiment ça qui est la grosse distinction entre ces 2030 glorieuses et les années 2020 qu'on a créées, c'est d'avoir laissé le monde respirer et qu'on puisse l'entendre et le voir différemment. Donc, je vois énormément de nature, la nature a été régénérée, quoi, donc les forces de régénération du vivant ont été utilisées au maximum. Je vois des fleurs partout, des tas d'insectes, de vie, ça pullule de vie, et derrière il y a des bâtiments, il y a de la technologie, et tout ça est dans une espèce de nouvelle alliance entre ce monde naturel et technicien pour faire fonctionner un certain nombre de choses.
Toi, tu étais mathématicien, tu as laissé la place à plein d'autres expériences, donc c'est pour ça aussi que tu as ce lien particulièrement fort à la technologie. Mais avant de parler de ces sujets, je constate quand même qu'à chaque fois que je pose cette question de qu'est-ce que tu vois, les invités, tout de suite, ils répondent « la nature ». Comme si, en 2020, à l'époque, 10 ans en arrière, cette connexion à la nature était complètement perdue. Comment on a réussi à se reconnecter au vivant en 10 ans ? Qu'est-ce qu'on a mis en place ?
Je crois que ça a démarré en 2020, c'est-à-dire avoir été confiné dans des villes. Beaucoup de gens ont réalisé qu'en fait, ces villes étaient des mouroirs de nature et énergétiques. Et donc, il y a eu un premier mouvement d'exode vers les campagnes, et beaucoup de villages se sont reformés. Les technologies de travail à distance ont permis aux gens d'aller vivre dans ces campagnes, d'avoir, on va dire, des mobilités douces. Et puis, pour ceux qui sont restés dans les villes, je m'en rappelle, on a aussi pris soin davantage de nos villes, parce que pour certains, on ne pouvait pas aller à la campagne, et moi, j'étais de ceux-là. Moi, je suis resté à Paris et on a fleuri les villes. Comme il y avait moins de monde qui habitait ici, on avait besoin de moins de routes. Donc, il y a une voie sur deux qui a été rendue naturelle. Et donc, on a commencé à planter, récolter. Donc, les villes sont à la fois devenues des sources de plaisir de nature, mais aussi des zones de récolte. Et je crois que ça c'est vraiment ce bascule en 2020 qui a été claire, à la fois pour des raisons, on va dire, de confort et de bien-être, mais aussi pour des questions de résilience et de sécurité alimentaire et énergétique.
Alors, on avait le regard sur le sol. J'aimerais qu'on lève ensemble le regard vers le ciel, parce que pour toi, l'exploration spatiale, ça peut vraiment servir l'écologie et l'humanisme. Pourtant, 10 ans en arrière encore, notre société, à ce niveau-là, elle marchait sur la tête à plein d'égards. Hein. C'est peut-être même le secteur qui résumait, incarnait le mieux la folie de l'humanité avec une exploration spatiale complètement débridée. Il y avait, je ne sais pas si tu t'en souviens, à l'époque, Elon Musk qui tentait de lancer des milliers de satellites avec Starlink, les voyages privés qui étaient sur le point d'aboutir, la conquête de Mars. Comment on a réussi à remettre de l'éthique dans ce domaine et pourquoi c'est si important ?
Dans ce domaine-là, il y a toujours eu dans le spatial un mélange, on va dire, d'intérêts nationalistes, d'intérêts commerciaux. C'est vrai que les intérêts commerciaux avaient pris le dessus, mais au départ, dans le spatial, il y avait vraiment une question philosophique qui était une question d'exploration, qui était souvent liée à une question de conquête, d'aller mettre un drapeau, etc., mais qui n'était pas toujours une question de conquête, d'ailleurs, quand on envoyait des sondes pour aller visiter les différentes planètes du système solaire. Et donc, il y a toujours eu coexistence d'un quelque chose qui était une extension du phénomène humain et d'autres qui étaient une extension du phénomène économique et commercial. Et quand ces questions de sens se sont posées au début des années 2020, il y avait toute une série de personnes qui étaient prêtes à renoncer à cette conquête spatiale à cause des coûts que ça augmentait. Mais il y a eu un certain nombre de découvertes qui ont été faites et des photos incroyables, très inspirantes par des sondes qui nous ont envoyé des photos extraordinaires du système solaire. Donc le spatial robotisé a jamais été vraiment remis en cause. Et sur le spatial humain, on s'est rapproché en fait de nos astronautes, de leurs témoignages, parce que beaucoup de gens avaient fait l'expérience d'Overview Effect que nous on avait aidé un peu à démocratiser, et c'est quelque chose qui était vraiment devenu clé. Et le fait d'avoir des gens qui soient vraiment nos émissaires, et les astronautes ont repris leur fonction, qui sont des émissaires de l'humanité, qu'on envoyait avant pour faire de la science, mais là on a fait partir des artistes, des poètes, et ces gens ont ramené des témoignages absolument extraordinaires, des œuvres extraordinaires, et donc on a considéré comme normal qu'une petite partie de l'humanité puisse faire ce vrai voyage. Et même le voyage vers Mars, qui est la continuité de la conscience humaine, cette exploration, on est revenu à des choses qui étaient beaucoup plus raisonnables. Et en 2030, on n'a pas encore envoyé le premier colon, mais ça ne devrait pas tarder, là, d'ici 4 à 5 ans, d'avoir les premiers humains qui vivent sur Mars. Donc le spatial s'est assagi. Sur les communications, les gens ont bien vu qu'on n'avait pas besoin de réseau 5G. Donc le projet d'Elon Musk, en fait, c'est financièrement qui s'est écroulé parce que personne n'avait plus besoin de cela, et donc il a été obligé de renoncer et d'utiliser les satellites qu'il avait déjà envoyés à d'autres fins. Mais il y a eu, je dirais, de la même manière qu'on s'est reconnecté à la Terre, le spatial est un moyen de nous reconnecter au cosmos, et les astrophysiciens aussi, les astronomes ont fait beaucoup pour nous reconnecter à ce cosmos, quoi, qui est une autre forme d'overview effect, qui est une forme de sidération de l'incroyable richesse de l'univers dans lequel on vit. Et ça fait partie des choses qu'on a beaucoup plus ancrées dans les études, dans l'imaginaire des gens, dans les séries. Et il y a une vraie passion aujourd'hui en 2030 pour l'espace, mais pas en termes de conquête, plus en termes de connaissances, de ressentis, et sur la poésie de l'espace, la musique des sphères, comme on l'appelait avant, en l'Antiquité.
Derrière cette exploration spatiale, il y a la notion de rêve, hein. Tu as parlé de créativité, tu as parlé d'envoyer des artistes dans l'espace, mais tu as aussi parlé de l'idée d'exploration, de repousser les limites. Est-ce qu'il y a d'autres limites qu'on repousse en 2030, et est-ce que finalement accepter nos limites, ça serait peut-être pas aussi un signe de maturité, d'un passage à l'âge adulte de l'humanité ?
Ouais, alors cette question des limites, elle est vraiment, on va dire, au cœur, on va dire, de la particularité de l'être humain. L'être humain est une machine à dépasser les limites, et il y a certaines limites qui méritent d'être dépassées parce que ce sont des limites qu'on s'est juste imaginées, hein. Notre capacité, par exemple, à voler, on n'était pas conçu pour voler, mais on a eu la capacité de le faire, la capacité à aller sur la Lune, la capacité à aller bientôt sur Mars, ça c'est des choses dont on s'est doté. Donc on a repoussé certaines limites parce que c'était aligné avec le projet humain. Et puis, il y a d'autres limites qu'on ne connaissait pas. Par exemple, on connaissait beaucoup moins l'océan et les fonds marins, parce que c'est très difficile de les observer. par rapport à l'univers, on connaît mieux l'univers que ça, et donc il y a eu un grand mouvement d'exploration, de cartographie des espèces qui vivent dans les fonds marins et dans la mer, et ça a beaucoup permis aussi d'inspirer les gens pour beaucoup moins manger de poissons et préserver les océans. Donc ça a eu un rôle très important, l'exploration du monde marin, et il y a des moyens très importants qui ont été faits, et voilà, l'océan est notre principal pourvoyeur d'oxygène, notre principal pourvoyeur de nombreux nutriments qui sont très importants dans les chaînes alimentaires. Les gens ont compris cela, et donc le fait d'avoir repoussé les limites de l'exploration aussi des océans, ça nous a reconnecté à ce système vital qui est ce système marin.
Et la sidération et cette capacité à tomber amoureux du vivant, comment on a réussi à la remettre au cœur de notre vie? Est-ce que ça passe par l'éducation? Est-ce que ça passe par de nouveaux rituels? Comment on recrée aussi ce lien intangible qu'on a avec le vivant?
Alors, c'est beaucoup passé au départ par la réappropriation de la production de notre nourriture. C'est-à-dire que au début des années 2020, comme je te disais, beaucoup de gens sont partis à la campagne, d'autres sont restés au niveau des villes, mais tout le monde a participé souvent quelques heures par jour à la production de nourriture. Et cette production de nourriture, on se rend compte qu'elle nécessite un certain nombre de connaissances. Et on s'est reconnecté au cycle de la vie, au cycle du soleil, au cycle des saisons, au cycle des germinations, au cycle des semis, aux outils et aussi à la façon de faire pousser ces choses-là de manière à avoir des bons rendements sans pesticides, sans apports. Donc il y a eu un regain d'intérêt pour la permaculture. La permaculture, elle mettait en avant le caractère écosystémique du moindre jardin. On a commencé à mélanger les espèces, voir quelles sont les espèces qui vivent le mieux les unes à côté des autres pour ne justement pas avoir de pesticides. Et les gens se sont à la fois amusés avec ça, émerveillés, et de se réintéresser à ce qu'ils avaient dans leurs assiettes. Peu à peu, les gens se sont réintéressés aux espèces qu'il y avait dans les forêts, et tout ce qui était autour de nous, qui était considéré comme un vague décor, hein, dans un espèce de jeu vidéo dans lequel on avait évolué. On s'est rendu compte que tout ça était magique. Les gens s'émerveillaient de voir des bourdons, des abeilles revenir sur les balcons, dans les rues, et puis après partout. Et cette magie du vivant, avec laquelle on avait réussi à vivre en alliance, alors qu'avant c'était relégué à des endroits qu'on ne voyait pas, c'est ça qui nous a reconnecté à la nature et à sa magie. Et les sciences naturelles, qui étaient des sciences qui étaient délaissées, à la fois, on va dire, pour décrire le cosmos, mais aussi décrire les espèces qui vivent et comment elles interagissent les unes avec les autres, c'est vraiment devenu quelque chose. Et puis, il y a le biomimétisme aussi qui a permis de révéler les secrets de nombreuses espèces. Et c'est des secrets que les gens s'échangeaient les uns les autres, en se disant, mais est-ce que tu sais que le chou-fleur a telle particularité, que cette fleur a cette particularité? Et les gens sont devenus vraiment amoureux du travail de R&D qui a été réalisé pendant des milliards d'années par la Terre, et donc les gens se sont mis à le respecter. Et le biomimétisme aussi nous a rappelé le caractère, on va dire, de solution que la nature est capable de trouver aux problèmes. Donc ça nous a inspiré beaucoup d'innovation. Et on a appris à cohabiter avec le reste du vivant ces 10 dernières années.
Toi, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais en 2030 glorieuse? Tu continues à te démultiplier, à porter toutes ces casquettes?
Non, je me suis remis aux maths. Donc maintenant que le monde va mieux, je me suis remis aux mathématiques parce que c'est un peu comme la poésie, les mathématiques. Ça permet de s'interroger sur la façon dont le monde est fabriqué. Moi, j'avais quitté les mathématiques il y a 30 ans en me disant « Ouh là là, il y a trop de problèmes, mais je ne peux pas faire une activité poétique qui n'a pas de sens. » Et je me suis replongé dans les maths et je garde un œil quand même sur tout le reste. J'ai renoué avec ce qui me connectait le plus avec l'harmonie de l'univers. Et pour moi, c'était les mathématiques.
Tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qu'il y a dans ces mathématiques qui peut justement nous aider à nous reconnecter à la magie de l'univers?
Alors, moi, là, dans les choses que je regarde, il n'y a même plus de notion d'aider, c'est-à-dire d'application. Et c'est vraiment de s'interroger au fonctionnement des choses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le fonctionnement des nombres et en particulier des nombres premiers, quoi, tu vois, qui sont, tous les nombres sont fabriqués à partir de nombres premiers, et de regarder dans ces nombres premiers comment ils fonctionnent, comment ils s'arrangent les uns avec les autres. C'est-à-dire, Et ça, c'est la base de tout, puisque tout est nombre, et tout nombre est fonctionné sur les nombres premiers. Il y a un certain nombre de choses que l'on ne sait pas. Par exemple, il y a une conjecture sur laquelle je réfléchis, qui est toujours irrésolue aujourd'hui, qui est la conjecture de Goldbach, qui dit que tout nombre pair est la somme de deux nombres premiers. Si vous prenez par exemple 18, c'est 11 plus 7. Et tous les nombres pairs sont deux nombres premiers. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc, en ce moment, je regarde cette question-là. C'est une question qui, si elle est tranchée, enfin, on a testé sur des nombres infiniment grands, ça fonctionne. On trouve toujours des nombres premiers. On ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas pourquoi non plus comment la mécanique quantique fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière les choses. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces équations de la mécanique quantique? Donc, comprendre le réel, ça ferait aussi partie des choses que j'aurais envie de creuser, là, dans les années qui viennent. Parce que, voilà, on sait faire du calcul quantique, mais on sait pas comment ça fonctionne et c'est quoi cette réalité qui est en dessous de nous. Et je crois qu'on a beaucoup de questions, sur la nature de la réalité. Donc ça, c'est une des autres questions qui m'intéresse, que j'avais déjà abordé dans mes romans, hein, par le chamanisme, qui est une façon de s'interroger sur la nature des choses, mais c'est des questions, là aussi, où l'humanité n'avait pas pris le temps de se poser ces questions-là, et c'est des questions qui sont fondamentales de se poser à un moment donné pour comprendre le monde qui nous entoure.
Je savais que j'allais partir en 2030 glorieuse avec un pro des utopies réalistes, et je ne me suis pas trompé, et c'est fou comme ces 20 minutes montrent à quel point il y a du pouvoir dans les mots, il y a du pouvoir dans ces espaces de projection qu'on ouvre ensemble. Je pense que là, tu m'as peut-être fait vivre un voyage parmi les plus beaux sans avoir à débourser un seul euro ni à émettre un seul gramme de CO2. Donc, merci pour ça, Jean-Pierre. La route, à la fois, hein, on vient de tracer un cap à 10 ans et cette route, elle est longue et courte en même temps. On a des personnes qui nous ont écoutés et qui vont revenir, elles aussi, à leur quotidien avec une routine qui est ce qu'elle est. Comment on arrive à faire un premier pas vers ce cap qu'on a ouvert ensemble pendant ces 20 dernières minutes? Si toi, tu avais une action concrète, un premier pas à suggérer à toutes les personnes qui nous ont écoutés, qu'est-ce que ça serait?
Je dirais, entraînez-vous à la contemplation. Prenez quelque chose, plutôt qu'un... quelque chose de vivant, une plante, une fleur, ou un insecte ou quelque chose, et passez une demi-heure ou une heure à réfléchir à ce que tout ça vous dit, quoi. Donc, rien que vous concentrez sur son monde, sa raison d'être, la façon dont il interagit avec son environnement, la magie de l'évolution qui a conduit à cette fourmi, à ce bourdon, toutes ses couleurs, toutes ses fonctions, toutes ces choses. Et donc, donnez-vous ces instants de contemplation, d'émerveillement de la nature, en commençant par des choses petites. Et je crois que ça, c'est ça qui va vous amener à avoir du discernement, à toucher ce que disait Christian Bobin, cette pointe fine du réel. Et en développant ça, vous développerez un discernement qui vous permettra de faire des choix très aigus. Donc, entraînez-vous à la contemplation. Vous pouvez aussi vous contempler la Terre sur onehome.org, mais faites ça avant tout avec des petites choses, parce que c'est par les petites choses qu'on comprend les grandes.
Merci Jean-Pierre.
Merci Julien.
Et voilà, l'épisode avec Jean-Pierre Gou vient de se terminer. J'espère que, comme moi, vous avez pris énormément de plaisir à voyager en 2030 glorieuse avec Jean-Pierre. Je le savais, hein, mais c'est vraiment un pro de l'utopie réaliste. Ça se voit qu'il a travaillé longtemps à ses projections où on tout d'un coup navigue dans un futur souhaitable. On a fait ça avec lui sur plein de sujets différents, l'exploration spatiale, la reconnexion au vivant, l'agriculture au centre de nos vies. Et à chaque fois, j'étais assez impressionné, je vous l'avoue, de la justesse de ses réponses, de sa capacité à aborder tous ces sujets, mais aussi de l'humilité derrière toute cette démarche qui est pourtant hyper complète, hyper complexe. Vous imaginez, depuis les années 90 déjà, Jean-Pierre travaille à vouloir créer une société plus juste, plus durable à travers ce qu'on racontait pendant cette interview, hein, vraiment s'attaquer au pourquoi, qu'est-ce qui nous rassemble, comment créer cette vision commune, ce terreau stable, enthousiasmant qui va derrière pouvoir nous permettre de nous mettre en mouvement, que ce soit pour construire, régénérer, mais aussi renoncer. Cette énergie, elle se retrouve dans tous les travaux de Jean-Pierre. Et je vous invite aussi bien à aller dévorer Les Siècles Bleus, à retomber amoureux de la planète grâce à Blue Tern, ou même à vous connecter à l'humanité avec One Home. Ce sont vraiment des projets qui méritent d'être non seulement creusés, mais aussi partagés au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à relayer cette interview, n'hésitez pas à relayer le travail de Jean-Pierre, et moi je vous dis à très vite, salut.
Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !